Radio G.
101.5 FM.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Ça y est, il suffit qu'il y ait un tout petit peu de soleil, on se croirait déjà en vacances, on en perd les bonnes habitudes. Mais non, on est bien là ce soir de 18h10 jusqu'à 19h pour vous accompagner en agitation locale, culturelle, environnementale, enfin tout ce qui se fait sur le territoire angevin, toutes les bonnes initiatives, les actualités, les associations, les projets aussi, tout y passe, tout le monde y passe, enfin on essaye, c'est pas extensible malheureusement. En tout cas, ce soir, un beau programme puisque encore une fois, Mathéo sera accompagné d'invités en partant d'un micro, celui de ton choix. Mathéo, bonsoir.
Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous.
Bon, finalement, ce sera pas la dernière pour toi ce soir.
Exactement.
Tu prolonges une semaine.
Exactement, c'est ça. Donc c'est avec plaisir qu'on l'annonce aux auditeurs de Radio G ce soir.
Qui sont très certainement heureux de l'apprendre.
C'est sûr et certain,
en tout cas,
ne connaissent pas.
Et ils vont être tout autant heureux de connaître le sujet de tes invités. Avec qui serons-nous tout à l'heure?
Eh bien, ce soir, on sera avec Anne Bourreau et François Bovino, respectivement membre, ancienne présidente et actuelle présidente de l'association Mauve, qui organise les 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc voilà, vous allez en apprendre un petit peu plus d'ici une dizaine de minutes.
À Angers spécifiquement, parce que
c'est
je crois que c'est un petit peu partout sur le territoire national et même européen. On aura aussi le retour du Julien Houguedé, normalement, qui devrait arriver incessamment sous peu. Tonton Albert, sa chronique La bouteille aux trois quarts vide. On va où aussi avec Sarah, La flashette avec Angelina. Ça y est, c'est un rendez-vous instauré désormais tout au long de son stage. Elle nous proposera La flashette. C'est quoi, c'est qui, c'est pourquoi, c'est comment? Et bah, tout à l'heure, autour de 18h50. Et puis on fera un petit point aussi sur Radio Vision, où est-ce qu'on en est pour le Radio Crochet organisé par Radio G et Bruno. Topette, c'est parti pour ce soir, on y va.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Mais avant toute chose, restons un petit peu sérieux, faisons le point sur les actualités locales ici à Angers avec toi Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Un homme grièvement blessé après une chute de plusieurs mètres.
Les témoins décrivent une scène atroce. Ça s'est passé au pied d'un foyer d'hébergement pour demandeurs d'asile à Cholet samedi soir. Un Somalien de 36 ans a chuté de la fenêtre du premier étage situé à plus de 6 mètres de haut. Il a été pris en charge par les pompiers et le SAMU dans un état très critique. Il a été héliporté au CHU de Nantes. Il souffre d'un gros traumatisme crânien, de plusieurs fractures au crâne, aux jambes et aux bras. Selon ses voisins, il avait l'habitude de fumer sur sa fenêtre. Alors aujourd'hui, son état de santé s'est amélioré. Les policiers ont enquêté pour trouver les causes de l'accident. Un homme avait été interpellé, mais rapidement mis hors de cause. Les pistes de l'accident ne font désormais aucun doute.
L'incendiaire du parking de la gare remis en liberté.
Une moto renversée, des voitures incendiées, 6 véhicules dégradés à coups d'extincteurs et de plaques d'égout. C'était l'incendie, tous les ravages que l'incendie avait fait sur le parking de la gare en mars dernier. La police avait interpellé sur place un homme de 21 ans dans un état psychologique particulier. Il devait être jugé hier, mais faute de rendez-vous pour une expertise psychologique en détention, le procès a dû être renvoyé en septembre. Le suspect a donc été placé sous contrôle judiciaire. Et même s'il n'a pas encore été reconnu coupable, la préfecture lui a remis une obligation de quitter le territoire français.
5 ans après la rénovation du centre des congrès, qu'est-ce que ça donne à Angers, Nolwenn?
Le bâtiment avait bien vieilli après 30 ans d'utilisation. Alors en 2017, la ville entame des travaux de rénovation qui ont duré 2 ans. Et 5 ans plus tard, le bilan semble positif puisque le nombre d'événements a bondi de presque 50% pour atteindre en 2023 243 événements locaux, mais aussi nationaux et internationaux. Et parmi eux, des concerts, spectacles, événements d'entreprise et bien sûr des congrès. Tout cela permet au tourisme angevin d'en profiter et les retombées économiques sont grandes. C'est ce que nous explique François-Xavier Séché, directeur de l'établissement.
Un congressiste national va dépenser 250 à 300 euros par jour de congrès sur ce territoire. C'est évidemment la restauration, l'hôtellerie, mais plus directement les commerces de proximité, la sécurité, les transports. En moyenne, un congrès de 1000 personnes sur 3 jours va générer 1 million de retombées sur le territoire.
Oui, Nolwenn, on finit avec
météo. Demain, le temps sera ensoleillé, le beau temps est enfin de retour, malgré quelques nuages. Il fera 9 degrés le matin et 19 dans l'après-midi. Côté trafic, quelques bouchons sont à prévoir sur l'A87 dans le sens Angers-Cholet, à hauteur d'Angers.
Merci beaucoup Nolwenn. Alors on a oublié de préciser aussi tout à l'heure, on va recevoir par téléphone, je crois, Mathéo, le festival 20 sur 20 du côté de par chez toi. Hein.
Exactement, on va recevoir William Cherbonnier qui est président de l'association de la boîte à Jean qui est derrière justement l'événement du 20 sur 20 et c'est ce week-end aussi, donc ça va être un concurrent pour les 48 heures de l'agriculture urbaine, mais voilà.
Mais voilà, on se met dans une position délicate dans Topette. On va essayer d'oublier tout ça avec une bouteille aux trois quarts vide d'abord avec toi, tonton Albert. Alors, tonton, quel genre de cuvée as-tu mis en bouteille pour ce retour à Topette après cette très très longue absence?
Eh bien, mon jeune ami, c'est une cuvée quelque peu étrange, qui mêle des saveurs que l'on n'attendrait pas. Je la qualifierais de tout en subtilité, cette cuvée, vois-tu, car simultanément, elle porte à sourire tout en appelant à s'interroger sur son degré de lucidité.
Est-ce que tu peux te montrer un peu plus explicite, s'il te plaît ?
Certes, cette information n'est plus un scoop depuis plusieurs semaines, mais comme je n'ai pas pu en parler plus tôt à ce micro, je voulais conserver bien au chaud. C'était, voici de cela, juste un mois. Lors de la visite qu'il effectuait dans une maison France Service en région parisienne, le Premier ministre Gabriel Attal a présenté la nouvelle intelligence artificielle du service public que le gouvernement n'a pas hésité à prénommer Albert. Incroyable, non ?
Effectivement, ça force le respect, tout en se demandant si le prénom choisi est adapté à l'objectif.
Je ne te le fais pas dire. Quiconque m'aura entendu dire à ce micro ou dans les dîners en ville, le plus grand mal de tout ce qui s'obstine à ne pas fonctionner dans le domaine du numérique, se dira que ça fleure bon l'incongruité. Ma défiance légendaire devant l'hydre informatique en rajoute d'ailleurs une bonne couche. Entre nous, Kevin aurait été plus opportun. Tant qu'à mettre en œuvre un machin qui à coup sûr va dysfonctionner, autant lui associer une identité qui possède déjà un certain passif. C'est pourtant un tout autre choix qui a été retenu.
Au fait, est-ce que tu connais les raisons de ce choix ?
Je te rassure tout de suite, ma modeste renommée n'a pas encore atteint les centres de décision ministériels. En outre, il aurait fallu que nos joyeux décideurs détiennent une aptitude à manier humour et autodérision, caractéristique qui leur fait manifestement défaut. Apparemment, ce n'est même pas en référence à Einstein, peut-être l'Albert le plus célèbre, que le choix s'est opéré. Certes, tout est relatif, comme disait celui-ci, mais tout de même. Il semblerait plutôt, si j'en crois ce que rapporte le site de France Culture sur le sujet, que nos têtes chercheuses gouvernementales sont allées glaner dans des théories pour le moins fumeuses, comme le sens caché des prénoms. D'ici qu'au prochain remaniement, l'on nous installe un secrétariat d'État à l'ésotérisme, il n'y a pas loin.
Dis-nous plutôt, tonton, quelles sont les qualités des Albert ?
Bon, puisque tu y tiens, il paraît, je cite, qu'Albert a un sens du devoir important et aime rendre service. Il est exigeant et n'aime ni l'imprévu, ni perdre son temps. Il fera tout pour organiser sa vie de manière à ce qu'il n'y ait jamais de cailloux dans l'engrenage. Tu avoueras que transférer ce portrait à une machine qui, par définition, va planter à la moindre occasion, cela relève franchement de la méthode Coué. D'ailleurs, nos dirigeants ne font pas mystère de la foi qu'ils mettent dans cette intelligence artificielle made in France. Le côté cocorico de leur machin est ainsi abondamment mis en exergue. Mais comme personne ne l'ignore, de la foi à la crédulité, il n'y a parfois que l'épaisseur d'une plume d'ange. D'après le Premier ministre, Albert, pas moi, l'autre, c'est un peu Shiva, tant il est capable de tout faire avec ses nombreux petits bras invisibles. Aux impôts, il sera ainsi chargé d'analyser les 16 millions de demandes annuelles en ligne effectuées par les contribuables en y apportant des réponses adaptées en lieu et place des fonctionnaires. Voilà, encore des emplois qui fichent le camp. Il y a intérêt à rentrer dans la bonne case afin de ne pas voir votre dossier purement et simplement rejeté. Albert pourra aussi officier du côté des directions régionales de l'environnement pour préinstruire des dossiers afin d'accélérer la transition écologique. Il pourrait aussi être utilisé pour retranscrire les audiences judiciaires et les comptes rendus médicaux. Il fait le café aussi. Toujours ce mythe tenace du tout technologique. Je regarde avec circonspection cette fascination pour cette fabuleuse technologie que l'on nous sert à la moindre occasion. Celle qui va nous sortir de tous les bourbiers dans lesquels notre espèce humaine s'est fourrée. Et il est troublant, je cite toujours France Culture, d'observer que cet Albert caché dans un data center pourrait, selon le gouvernement, faire des miracles. Quand j'étais môme, faire des miracles était l'expression que l'on brandissait quand la vaisselle était mal empilée et risquait de se fracasser sur le sol à tout moment. Concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'une nouvelle étape dans la déshumanisation des services publics va être franchie. Il relevait déjà de l'exploit d'obtenir un rendez-vous physique avec un agent de la plupart des administrations. Je vous laisse imaginer sans peine l'évolution attendue avec cet Albert numérique. Baudelaire vantait les paradis artificiels. Voilà que surgit l'enfer artificiel qui, néanmoins, sera bel et bien réel pour nombre d'usagers. Il serait du reste judicieux de modifier l'orthographe du terme « usager du service public ». En effet, nous risquons toutes et tous de devenir très usagers lorsque nous serons aux prises avec cette trouvaille. Il n'a plus qu'à espérer une seule chose.
Ah oui ? Et laquelle, tonton ?
Que ce ne soient pas les concepteurs du site de la SNCF qui aient obtenu le marché. Il y a tout de même des limites au gaspillage des fonds publics.
La bouteille aux trois quarts vide de Tata Amélie. Ah non, ça c'était autre chose. Amélie, tonton Albert, Albert Amélie, tu l'as ? Service public aussi, Amélie, c'est un autre prénom.
Ah, Amélie, absolument.
Mais voilà, tu n'y avais pas pensé.
Ah ouais, je l'avais pas celle-là. Pas spontanément en tout cas.
Pas spontanément. En tout cas, cette chronique, on peut la lire, on peut la réécouter partout, un petit peu, surtout sur ton site d'internet, comme tu l'appelles.
Ouais, lesaltimbook.com.
Voilà. .com, tout simplement, rapidement du côté de Saint-Rémy-la-Varenne, au priori, peut-être.
Ah, oui,
oh là,
oui,
il sort les flyers,
oh
tonton.
Oh là là.
S'il n'était pas prêt pour ça. En attendant, si Mathéo veut bien aller ouvrir à Noodles, qui vient d'arriver tranquillement, après 4 saisons,
on a toujours pas le code. On a des choses ce week-end. Vendredi 24 à 20h30, au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, on a un concert Tempo Menor, ça s'appelle, de l'Amérique latine à l'Espagne, du Portugal au Brésil. Une voix et deux guitares pour éclairer les cœurs et chauffer la nuit. Et ça coûte 12 euros pour les adultes.
À la façon,
c'est
à vite monter,
10
là.
Euros pour le tarif réduit. Et c'est au chaud. Au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne.
Merci
voilà.
beaucoup, tonton.
Merci à toi.
On se retrouve dans 2 semaines. Tu restes avec nous si tu le souhaites, si le sujet t'intéresse, et je pense que oui, car voici que voilà nos invités de ce soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et nos invités sont avec Mathéo. Mathéo qui va se charger de nous dévoiler un petit peu tout ce qui se passe autour des 48 heures de l'agriculture urbaine. N'est-ce pas, Mathéo ?
Exactement. Bonsoir Anne, bonsoir François.
Bonsoir.
Alors Anne Bourreau, vous êtes vous membre, ex-présidente de l'association Mauve, et François Bovino, vous êtes actuel président de l'association. Les 24, 25 et 26 mai, le festival des 48 heures de l'agriculture urbaine revient dans 35 villes à l'échelle européenne. Elle se situe en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, en République tchèque pour la première fois, et bien évidemment en France. Angers fait partie de ces villes qui, le temps d'un week-end, célèbrent la transition écologique et l'agriculture dans les zones urbaines. Comme chaque année, c'est vous, les membres de l'association Mauve, qui organisait ces quelques jours. Avant de parler des 48 heures de l'agriculture urbaine, de revenir jour par jour sur ce qui va se passer, peut-être est-il important de remettre du contexte et d'expliquer ce terme d'agriculture urbaine, même si le nom est plutôt équivoque. Je vais te laisser, François, répondre à cette question.
Alors, merci de poser la question, parce que derrière le terme agriculture urbaine se cache beaucoup de choses. À Mauve, on a l'habitude de parler des agricultures urbaines, puisqu'elles sont plurielles. Elles peuvent être très high-tech, comme utiliser des techniques, j'irais, de bon sens paysan. Elles prennent différentes formes et surtout ont différentes vocations, à la fois environnementales, alimentaires, mais aussi sociales.
Et justement, on en fait pas mal la promotion dans cet événement, qui, on l'a dit, est européen. Où est-ce qu'il est né, cet événement, Anne ?
Alors, il est né à Paris avec l'association, le collectif La Sauge, qui a impulsé en 2016 de mémoire cet événement. Et depuis 2 ans, c'est de nouveau repris par la FOP, qui est une association professionnelle pour l'agriculture urbaine, qui désormais coordonne l'ensemble de l'événement. Mais c'est vraiment un événement qui a fait plein de petits dans différentes villes. Et effectivement, ça va cette année jusqu'en République tchèque.
Et justement, il a migré jusqu'à Angers. Est-ce que c'était le cas depuis la première édition ou c'est quelque chose qui est venu un petit peu après, Anne ?
Alors moi personnellement, j'ai participé à l'organisation à Nantes quand j'étais à Nantes, et en arrivant sur Angers il y a 5 ans, je me suis dit bah, c'est quand même dommage, ville du végétal qui est pas les 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc tout simplement en rencontrant quelques acteurs locaux, on s'est dit allez, on y va et on amène l'événement sur Angers.
Justement, comme vous l'avez dit, les porteurs de valeurs importantes, surtout que, comme vous l'avez là aussi dit, nous sommes dans une ville, en apparence en tout cas, qui se veut écologique. C'est une ouverture déjà présente chez les Angevins. Est-ce que c'est une des raisons qui vous a poussé à l'organiser ici, François ?
Alors effectivement, Angers rassemble un bon nombre d'acteurs du végétal et de l'environnement. A aussi l'ambition de fédérer au-delà des limites de la ville d'Angers stricto sensu, puisqu'on rayonne sur l'agglomération et même à travers les différents départements, en faisant adhérer des membres qui sont sur Segré, sur le nord du département, ou bien au sud d'Angers. Donc en fait, ce n'est pas une association stricto sensus angevine, mais qui rayonne sur l'ensemble du territoire du végétal en Anjou.
Et justement, Anne, ça a été facile pour toi de l'organiser, cet événement, où au début, justement, il y avait peut-être pas assez de monde, il y avait quelques... les gens étaient être réticent à l'idée d'avoir ça ici chez nous.
Eh ben, pas du tout. Alors c'est vrai que pour la petite histoire avec Eddy Pinault de Cycle, on s'est dit allez, on lance l'événement, on voit, enfin en tout cas on fait une première réunion avec l'ensemble des acteurs professionnels et associatifs, puisqu'il y avait les jardins familiaux, voilà tout ce genre de structure. Et à la première réunion, on était plus d'une trentaine d'acteurs, et on s'est dit ben on lance les choses, et finalement il y a eu tout de suite une dynamique qui s'est créée sur le territoire.
Alors comme on l'a dit, Angers fait partie des 35 villes qui participent à cet événement. Est-ce que chaque événement est unique, propre à la ville, ou il y a des liens entre justement les différentes municipalités ?
Entre chaque ville, on a des liens surtout de coordination nationale. C'est-à-dire que tous les mois, on a une réunion en visio, donc c'est super sympa parce que finalement, on se voit très peu ou voire pas du tout dans l'année, mais avec cette... c'est le miracle d'Internet. On arrive à vraiment bien coordonner ces différentes actions qu'on mène chacun après dans nos villes. Et après, l'événement s'adapte vraiment à la réalité de chaque territoire.
François, tout à l'heure, Anne a évoqué l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Depuis 3 ans, c'est elle qui coordine l'événement. Qu'est-ce que cela a changé concrètement ?
À notre niveau, pas grand-chose. Ça sécurise la coordination nationale, puisque on peut dire que la Sauge, toute proportion gardée, était l'équivalent de Mauve, mais à Paris, alors que l'Association française pour l'agriculture urbaine professionnelle a une dimension vraiment nationale, avec des salariés permanents et un staff et une logistique qui permettent de déployer en région cette coordination. Donc, ça permet de sécuriser cette coordination, mais à notre niveau, ça n'a pas changer l'organisation locale.
On a pu revenir pour l'instant un petit peu sur l'histoire de l'événement. On va revenir après, juste après une pause musicale, sur cette journée justement, parce qu'il y a pas mal de choses de prévues. Hein, forcément, 3 oui. jours entiers, c'est long. Et il va falloir les combler et on verra ça
intense.
Tout à l'heure. Et justement, Pierre-Benoît, je te redonne la main puisqu'il me semble qu'on part en musique.
Eh bien, tout à fait, on va partir en musique. Le temps de digérer un petit peu ces informations que l'on prend tranquillement ce soir dans Topette. On écoute Suzanne Bellobre, C'est rien. Et on revient avec toi, Mathéo, Anne et François.
Des idées subtiles, j'en ai plein la mémoire. Mais aujourd'hui mes déboires sont assez stériles. Je sais qu'il faut avoir plusieurs tours dans son tiroir, mais là moi, j'ai plus qu'un fil. Sans perler le temps me questionne, suis-je la bonne personne pour vivre ma propre vie? Je ne réalise pas bien toutes les pensées qui résonnent. Au milieu je me sens conne et vide. Son alcool. Je sais que je suis un peu folle, mais faut bien qu'on rigole, que mon cœur fasse son alcool. C'est rien.
De Suzanne Bellobre sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Tout à l'heure, on aura la flashette, on va savoir où aller également avec Sarah. Mais avant tout ça, on retourne avec toi, Mathéo, pour s'intéresser aux 48 heures de l'agriculture urbaine, des agricultures urbaines même.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Oui, on est toujours avec Anne Bourreau et François Bovineau, deux membres de l'association Mauve, dont l'ex-présidente et le président, du coup, important de le rappeler tout de même. On s'est replongé un petit peu dans l'historique global de la journée des 48 heures de l'agriculture urbaine et à Angers, donc forcément elle vient sur trois jours, le 24, 25 et 26 mai. Et on va se plonger un petit peu plus sur l'événement maintenant. Vous réunissez les principaux acteurs de la transition écologique en Anjou. Comment avez-vous fait cette sélection et qui pourrons-nous retrouver, François ?
Alors, il ne s'agit pas de sélection. On invite bien évidemment avant tout nos membres, qui sont au nombre d'une trentaine. C'est d'abord et avant tout une association de structures associatives, entreprises, établissements de formation. On invite également nos partenaires, collectivités locales, et puis un certain nombre de structures que l'on côtoie, notamment des entreprises que l'on côtoie par nos activités diverses et variées et respectives des différents membres, qui ne sont pas encore membres, qui le seront peut-être un jour, mais avec qui nous avons des relations, et on les invite à venir nous découvrir et puis échanger autour de la thématique du végétal en ville.
Tout ce beau petit monde, on va pouvoir le retrouver tout au long du week-end, un week-end qui commencera au Héron Carré avec la soirée de lancement demain à 19h. Est-ce que c'est un choix qui s'est fait de par la proximité avec le parc Balzac, Anne, ou alors c'était juste un kiff?
Alors, même bien le Héron Carré peut-être, Anne.
C'est ça.
Moi, je suis grillée. Alors, le Héron Carré, ça fait très longtemps qu'on essaye de faire des passerelles et des partenariats ensemble. Et puis, par habitude, les 48 heures de l'agriculture urbaine sur Angers, le village en tout cas, se déroulait à Place Saint-Éloi, la place où il y a le musée des Beaux-Arts. Et puis, il paraît qu'il y a la flamme olympique la semaine prochaine. Alors, notre programmation, en tout cas le lieu d'accueil, a été obligé de se revoir. C'était plus en hypercentre. Et puis, nous, on est très contents d'aller au Héron Carré parce qu'on aime bien leur accueil. Et puis, je trouve que pour parler d'agriculture urbaine, d'être dans un cadre comme ça, c'est très chouette et ça parle de soi.
Et justement, le lendemain, on passe la soirée et puis on reste au parc Balzac avec justement l'ouverture du village des 48 heures toujours au Héron Carré.
Oui.
C'est à 11h. Que pourra-t-on retrouver sur le lieu et est-ce qu'on aura une animation spécifique pour le parc Balzac qui, on le rappelle, est un lieu important pour l'écologie à Angers?
Alors, sur le parc Balzac, il n'y a pas forcément de médiation, quelque chose d'événement particulier. Par contre, sur le village des 48 heures, donc c'est de 11h à 18h au Héron Carré, avec tout un tas de stands avec l'ensemble de nos adhérents. Donc, on sera une petite vingtaine d'exposants. Il y aura également un temps de rencontres, d'échanges, des ateliers, notamment faire des bombes à graines, hôtel à insectes, par exemple. Et puis, un marché de producteurs. Voilà un peu les grands temps forts de cette journée sur le village au Héron Carré.
Une diversité de propositions intéressantes. Tout le monde met la main à la pâte, pardon. Et on peut prendre un exemple, celui du snacking, qui est fait en partie par les étudiants de l'Expo Flow. Expliquez-nous, François.
Alors, Expo Flow, c'est l'association d'étudiants de ce qu'on appelait encore il y a peu Agrocampus Angers, l'école d'ingénieurs horticulture et paysage, qui s'appelle maintenant Institut Agro Angers. Et donc, leur association d'étudiants a une section snacking pour leurs événements. Et il nous paraît très naturel de les associer à l'événement, dans la mesure où ce sont de futurs professionnels du végétal, et notamment du végétal en ville. Et donc, ils viennent proposer leur prestation de dégustation de produits faits maison aux visiteurs de notre village, des exposants des 48 heures de l'agriculture urbaine.
Est-ce qu'on a beaucoup de bénévoles qui ont répondu à vos demandes pour cet événement?
Ce ne sont que des bénévoles.
Que des bénévoles.
Tous les exposants font ça sur leur temps personnel, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'associations. Et l'association Mauve ne fonctionne que grâce aux bénévolats.
Alors on va s'en aller rouler la tête pleine de nouvelles idées pour écologiser, j'ai trouvé ce terme, il existe bien, sur notre territoire angevin. Eh bien il suffit de venir dimanche pour le circuit vélo, collaboration avec Place au Vélo. Pierre Benoît pourra nous aiguiller au besoin, puisque je rappelle tu es président de Place au Vélo, en tout cas d'une section de Place au Vélo, c'est ça?
Ouais, je fais partie de l'association, mais ça c'est une autre casquette, c'est comme Anne, elle a plein d'autres casquettes.
En tout cas, Anne, racontez-nous ce parcours dimanche.
Alors, ce parcours, alors Pierre-Benoît, écoute bien ce parcours-là. Donc l'idée, c'est le dimanche, habituellement, c'est des portes ouvertes dans les différents lieux qui souhaitent accueillir les visiteurs. Les visiteurs les auront rencontrés sur le village la veille. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le lieu où se pratique l'agriculture urbaine. Donc dimanche à 9h30, on part avec Place au Vélo du pont des Arts et Métiers, voilà près de, enfin le long de la Maine, pour aller à la chambre d'agriculture sur le toit terrasse où a été aménagé un démonstrateur d'agriculture urbaine. Ensuite, on file à vélo côté Belleveille pour aller rencontrer les Belles Pailles. Et on termine très gentiment à Vigne-en-Ville, le long des coteaux du Bon Pasteur. Voilà un peu pour la balade à vélo. S'ajoutent à ça d'autres portes ouvertes avec le Jardin Zur l'après-midi à la Paperie et puis la Maison de l'Environnement toute la journée.
Alors je vais me tourner vers des personnes présentes dans le studio. Julien Ogdé vient d'arriver, le grand beau Julien Ogdé.
Oh, voilà. Appelle le Noodles, sinon les personnes Noodles ne vont pas le reconnaître.
C'est vrai aussi, double facette. Toi ça te parle ce genre d'événement, est-ce que tu vas venir?
Oula, déjà.
Balance dans le grand.
Je ne sais pas si je pourrais être présent, mais le samedi après-midi, en tout cas, oui, il y a des possibilités. Je serai au Héron Carré, à côté. Donc, ce sera l'occasion de passer. En plus, je ne sais pas si j'étais pas là en début d'émission. Donc, je ne sais pas si c'est la première, la deuxième, la dixième
neuvième.
Édition. C'est la neuvième
qui
édition.
Était presque.
Et est-ce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement dans Angers, dans ce coin-là, ou est-ce que c'est toujours des lieux un peu différents? Comment ça se passe concrètement?
Mais elle n'a vraiment rien suivi.
Ben non, j'ai dit, j'étais pas là au début.
Comment ça se passe habituellement, c'est ça?
Ouais.
On est toujours sur un format d'un week-end, donc c'est un temps fort national où on est une trentaine de villes, France et européenne d'ailleurs, ça va jusqu'à Prague cette année. On est toujours dans un format sur 3 jours. L'idée, c'est vraiment de parler de la région urbaine sur 3 jours. De manière un peu intensive, donc c'est un festival qui se vit sur ces 3 jours-là dans toutes les villes qui participent. Et sur la formule, sur Angers, on est toujours sur un lancement le vendredi soir, un village, des acteurs le samedi et les portes ouvertes le dimanche.
Et parmi toutes ces villes qui participent, est-ce que ça évolue parfois? Est-ce qu'il y en a qui se rajoutent en France ou est-ce que ça a toujours été les... Je repose les mêmes questions, c'est ça?
Oui, ce sont un peu plus ou moins les questions qui ont déjà été posées. Mais rassure-toi, c'est Julien, car François et Anne sont avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors toi, non, donc tu pourras écouter en podcast ou sur le retour. Décidément, il vient en cours de route pour reposer les mêmes questions, mais c'est pas grave, puisqu'on pourra redonner toutes les infos pratiques et puis aussi peut-être les petits détails que sur lesquels vous aimeriez revenir, les temps forts, vos coups de cœur peut-être pendant ce temps fort. Justement, on va partir du côté des Garennes-sur-Loire dans quelques instants, mais avant tout ça, on va faire un petit tour en ville avec Sarah qui va nous dire on va où ce soir si on veut bien manger, bien boire, avec modération, bien évidemment.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour on va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? C'est là. C'est The Adresse où tu dois aller pour boire un vin exceptionnel en dégustant des plats. Et pardonnez-moi l'expression, à se taper le cul par terre. Dans un décor très bistrot, cosy et marqué vin, une carte qui fait déjà frétiller tes papilles. On n'arrivait pas à se décider, donc on a pris toutes les entrées pour découvrir tout ça ensemble. Parce que j'adore ça. Le restaurant, c'est fait pour partager, pour échanger et en prendre plein les mirettes et les papillettes. Le must-have, la focaccia vitello tonnato et huile de truffe. Non mais le panard ! Une focaccia épaisse, moelleuse, recouverte de sa crème de thon et capre, du veau fondant et le tout sublimé par l'huile de truffe. La régalade, je le veux pour la vie ! Le risotto aux champignons et œufs parfaits était gourmand, assaisonné comme il faut, tellement réconfortant. Mozza noisette truffe sans faute et terrine aux petits oignons. Le tout accompagné par un bon pain au levain de la boulangerie Corneille. Fromage excellent, puis les desserts. Mes partenaires épicuriens du soir n'ont pas été difficiles à convaincre pour la dégustation de deux des trois desserts proposés. Riolet, poire pochée au genépi et sarrasin soufflé. Waouh ! Premier coup droit. La cuisson parfaite, la poire bien relevée et caramélisée, c'est suave, doux et délectable. Puis la ganache chocolat 64%, streusel, noisette et chantilly orange. Bim, le revers en pleine figure cette fois-ci. Simple, penserez-vous ? Simple, mais tellement différent. Le streusel est à mourir. La fleur de sel l'envoie directement dans une autre dimension. La chantilly est d'une légèreté hors norme. La ganache onctueuse est tellement bien équilibrée. L'ensemble, c'est le feu d'artifice dans mon palais. Et on sent à peine le sucre. Toute la lumière est mise sur les saveurs et le jeu de texture. Franchement, chapeau. J'en oublierai presque de vous parler du Bena Strada Lagaric 2020. Tellement bon qu'on a dû en prendre deux bouteilles pour être bien sûr que c'était un vin d'exception. Ouvert le lundi, en plus, avec une clientèle totalement hétéroclite. Je fais la fille et je reviens pour vos quilles. C'est juste le kiff absolu et le chef Sofiane est une crème de gentillesse, de générosité et d'humilité. Une fille et des quilles, c'est au 66 rue Baudrière à Angers tous les soirs, du lundi au samedi. Et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, Mangez-moi.
Ah ça y est, Anne et François sont en train de nous mettre des pots de fleurs partout, de mettre des pieds de tomates dans le studio, mais pourquoi ? Parce qu'on parlait d'agriculture urbaine, bien évidemment, les agricultures urbaines, et on en reparle tout à l'heure en fin d'émission avec toutes les infos pratiques et tout ça. Bien évidemment, il y a la flashette aussi de Topette qui se prépare avec un magnifique jingle composé par Thomas, mais avant tout ça, Mathéo, on te retrouve du côté des Garennes-sur-Loire, je crois.
Oui, Pierre-Benoît, nous sommes avec William Cherbonnier par téléphone pour parler du festival 20 sur 20. Bonsoir William.
Bonsoir.
Alors vous êtes président de l'association La Boîte à Jean, l'organisme derrière le festival. 9e édition pour 20 sur 20 qui s'inscrit comme l'un des rendez-vous les plus attendus par les ménos ligériens, qu'ils soient malvrétois ou non, puisque le festival connaît une popularité qui dépasse assez largement ses frontières. Cette année, vous avez bloqué le vendredi 24 et le samedi 25 pour passer pas moins de 12 groupes et artistes ainsi que 2 fanfares, on va pouvoir y revenir. Juste avant, William, cet événement est porteur de valeurs importantissimes au niveau culturel mais aussi au niveau du patrimoine local avec le vin. Racontez-nous ce qu'est 20 sur 20, tout simplement, William.
Alors, 20 sur 20, c'est un festival à la fois de musique et de mise en avant, effectivement, du patrimoine, notamment viticole, de notre commune Saint-Jean-des-Novrais, maintenant les Garennes-sur-Loire, nouvelle commune des Garennes-sur-Loire. Et le principe, c'est de ramener un petit peu la culture en milieu rural avec un festival qui est totalement gratuit et qui est donc sur deux soirées, comme vous l'avez dit.
Et si on s'appuie sur ce point spécifique, le vin, comment ça marche? C'est-à-dire qu'on a pas mal de personnes issues de ce secteur-là qui viennent sur le lieu, qui proposent leur vin?
Alors en fait, non, ça fonctionne avec un partenariat avec les vignerons de Saint-Jean-des-Mauvrais depuis la création du festival, qui en fait mettent en place deux bars à vin, ce qui est assez rare sur un événement. Donc c'est deux bars à vin sur lesquels on peut acheter en fait l'ensemble des appellations de la commune, et donc des bords de Loire les plus connus. Donc nous on est sur les appellations Anjou, Lage, Brissac, Coteau de Lauban, et puis vous retrouvez les Anjou Blanc, Anjou Village, j'en oublie un, et Cabernet Rosé. Donc c'est l'idée de proposer du vin de qualité sur le territoire. Généralement on est plutôt habitué à avoir de la restauration, des bars à bière. Là on a des vins de qualité à proposer sur le site, quoi.
Alors ça, c'est l'une des particularités, vous en avez d'autres, et l'un des points les plus importants, c'est la gratuité. J'imagine, vous n'avez jamais évoqué le sujet en interne de rendre l'entrée payante, c'est vraiment l'âme du 20 sur 20, ce côté accès culturel pour tous.
Ouais, tout à fait. Alors, on s'est posé la question pour les premières éditions, puisqu'en fait, l'origine, on avait déjà fait une fête de la musique auparavant. On souhaitait qu'on perdurait un petit peu cette ambiance et puis le dynamisme de l'association. Donc, on était parti sur la création de ce festival de musique et de vin. Et la question s'est posée les premières éditions, de savoir quel système économique un peu on mettait en place. Et la gratuité s'est imposée tout de suite. De fait, parce qu'on voulait vraiment proposer un événement culturel sur les communes rurales et gratuit pour vraiment que ça soit accessible à tous. C'est un choix qu'on a fait pour effectivement permettre à chacun, de tous les âges, de tous les milieux sociaux, de pouvoir se retrouver sur un événement culturel avec le principe aussi, c'est de rémunérer les artistes à juste mesure. Donc c'est vraiment le travail de bénévoles et des partenariats qui permettent cette gratuité.
Justement, cette gratuité et puis plein d'autres petits points font qu'on a une popularité plus que grandissante. C'est un festival qui réunit de plus en plus de personnes. À l'heure actuelle, plus de 50 000 personnes ont déjà vécu l'expérience. Ça, c'est des chiffres que nous pouvons retrouver sur votre site internet. Ça ne doit pas être facile de gérer cette fréquentation grandissante. L'année dernière, par exemple, vous avez accueilli plus de 8 000 personnes.
Ouais, alors ça s'est fait d'année en année. Hein. On a quand même monté par 2-3 000, on est monté à 5 000, on a eu des années, même des pics à quasiment à 10 000 personnes avec Zanzibé. Puis il y a eu l'époque Covid là qui a arrêté un peu le dynamisme. Puis on a repris tout de suite. On était un des premiers après le Covid à repartir. Et en fait, c'est que tous les ans, on grossit un petit peu, on apprend aussi nous en organisation à se développer un peu, sachant que le but c'est pas de devenir un événement, c'est pas de tripler la jauge non plus, c'est de rester à notre hauteur dans ce qu'on sait faire, et c'est la popularité qui fait que ça grandit aussi d'année en année, de plus en plus de visiteurs qui viennent pour une première fois et qui disent maintenant je reviendrai tous les ans, parce que c'est tellement que ça soit l'ambiance, etc., qui est vraiment une ambiance familiale, un peu esprit fête de village, tout en ayant une qualité musicale. Et c'est l'autre point fort, c'est qu'en qualité musicale, on a des artistes qui valent tous les festivals un peu payants de la région. Donc on arrive à mixer un peu les deux, et c'est ce qui fait que d'année en année, donc cette année, effectivement, ça a mis à compter, mais on a reçu plus de 50 000 personnes en 10 ans.
Ouais, c'est un chiffre énorme, et puis on voit aussi ces scènes de personnes qui viennent de très très loin avec leur caravane, leur camping-car, et qui restent tout le week-end littéralement sur le lieu. Donc c'est des belles scènes, et justement ces festivaliers vont pouvoir découvrir pas mal d'artistes cette année. On va commencer par la journée du vendredi, trois groupes, Little Big Sister, The Door Spirit et Les Petits Riens, une provenance locale autour de propositions variées. C'est le programme de cette première soirée, William.
Oui, tout à fait. Alors, on a une nouveauté cette année, c'est qu'on a, suite à des travaux dans la commune, on a un petit peu changé le site. Donc, on a un nouveau site, puisqu'on a deux scènes. Il y a une des deux scènes qui change complètement d'ambiance, qui va rester dans une ambiance très guinguette. Et on a profité cette année pour faire ce qu'on n'a encore jamais fait. C'est une soirée cover, en fait. Un peu une particularité cette année. Et donc on est parti sur trois groupes, alors que ça soit très local avec les petits ragnons qui font des reprises de chansons françaises, de Gainsbourg, de Brassens, de Jacques Brel, très variés, qui sont vraiment de Brissac même, donc vraiment voisins. À Little Big Sister, qui sont un groupe montante, plutôt connu sur la scène blues, qui ont remporté pas mal de prix sur différents festivals, et qui là nous font un concert complètement unique en faisant des reprises. Donc ils ont travaillé un répertoire spécial pour le 20 sur 20, donc ça va être assez sympa. Et le dernier groupe, c'est effectivement The Dorf Spirit, qui eux sont dans une autre démarche, et des groupes un peu tribute, qui essayent de retrouver exactement les sonorités des groupes d'époque. Donc là, qui vont jouer sur, qui font des reprises des Dorf, qui vont nous ramener dans cette époque un peu magique.
La scène du Crédit Mutuel, on va pouvoir y accéder samedi. Je vais pas pouvoir tous les citer parce qu'on
on a 9 groupes. Tout à fait. Ouais.
Le samedi, mais on change vraiment de dimension à minima dans la notoriété et puis dans la multiplication de propositions. Ça sera une soirée très chargée et ça commence dès 18h.
Dès 18h, même 17h pour l'ouverture avec un spectacle enfant, des animations, des balades en poney, etc. Ça, c'est l'esprit un peu famille. Et dès 18h, la grande scène Crédit Mutuel s'ouvre avec une ouverture avec The Blurs. Et après, effectivement, on a trois grosses têtes d'affiches. Qui nous tenait à cœur depuis un moment, la routine, on les suit depuis un moment. C'est des chanteurs qui étaient il y a quelques années dans Babel, qui ont déjà joué au festival, là, qui se sont reformés, qui ont gagné il y a quelques années, les artistes. Ouais. Et ils sont très attendus. Alors, petit changement d'horaire, il y a eu un petit changement. Donc, eux joueront 21h30. Et Archimède ouvrira la scène, lui. Donc, c'est des chansons françaises. Alors, eux, ils viennent plutôt de Laval. Tourné il y a 10 ans avec pas mal de nominations aux victoires de la musique, pardon. Et puis Ali et Mohamed Nusset. Alors Mohamed Nusset, je crois qu'il y a besoin de le préciser, c'est un des membres de La Rue qui est à nous, et qui là cette année font une petite pause, et donc là ça va être un petit concert. Alors il en a fait d'autres, mais c'est une année unique où cette année il tourne avec Ali, qui est plutôt sur du rap, et donc ils font un mix tous les deux de trucs super original, à la fois le répertoire d'Ali, à la fois le répertoire un petit peu de La Rue qui est à nous. Donc c'est quelque chose à découvrir. Ils vont tourner, a priori, ils tourneront que cet été. Donc c'est aussi un événement à pas louper. C'est un des seuls gratuits d'ailleurs qu'ils feront. Donc c'est une programmation qui est vraiment sympa. La scène en plus est du coup là beaucoup plus grande, plus dans l'esprit festivalier. Tandis qu'on garde la scène MM à Brissac dans un esprit plus restreint, plus proche du public. Donc on peut varier d'une scène à l'autre, comme ça toute la soirée. Elles joueront l'une après l'autre, donc on peut quasiment voir tous les groupes. De l'ouverture de 17h jusqu'à 1h30 du matin.
Alors William, on a couvert pas mal de sujets sur 20 sur 20, mais on peut pas tout traiter malheureusement parce que forcément c'est un événement énorme. Justement, faut venir découvrir. Et si on souhaite s'informer plus en profondeur sur toute la liste d'artistes du festival et puis même plus, peut-être l'historique, on peut retrouver le festival 20 sur 20 sur quoi ? Sur un site internet, les réseaux sociaux peut-être ?
Ouais, là on a le site internet qui est réalisé justement par un partenaire, là, donc un beau site internet qui est www.festival-20sur20, tout attaché.com. 20 sur 20, là, on l'a pas dit, c'est un jeu de mots, on a 20 VINS pour le 20, sur 20 VINGT pour la note. Donc voilà, c'est le nom du site, festival-20sur20.com. Là, vous retrouvez effectivement toute la programmation, tout l'historique de l'association, comment nous rejoindre en tant que bénévole. On est toujours preneurs, même la veille, hein, si certains souhaitent venir nous retrouver. Et puis on est présents sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, etc. Donc les informations sont en train de tourner en ce moment.
En tout cas, nous vous souhaitons le meilleur pour cette 9e édition, merci sans beaucoup. Doute, on l'espère, à l'année prochaine. Nous par téléphone, c'était William Cherbonnier, président de l'association La Boîte à Jean, qui organise le festival 20 sur 20. On répète, c'est ce week-end, les 24 et 25 mai. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet du festival, comme William nous l'a si bien dit. Et puis, point important qu'on répète et puis re-répète encore, l'entrée est gratuite. Merci, William, d'avoir été l'invité de Topette ce soir.
Merci à vous et à ce week-end.
Sur ce, Pierre-Benoît, je te redonne la main.
Oui, merci Mathéo. Et rassurez-vous, même si c'est le même week-end, les deux événements dont on parle ce soir dans Topette, normalement on pourra à la carte aller aux deux. Voilà, quand on a le choix, moi je vous conseille de, entre deux choses, de faire les deux choses comme ça. Voilà. Vous savez pas si vous aimez l'accordéon, l'humour, bah voilà, là c'est pareil. On fait pas le, on choisit pas, on fait les deux en même temps.
Top, 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 top à la flashette.
Piscine, rendez-vous chez le dentiste ou repas chez mamie. Vous n'étiez pas à l'écoute de Topette hier?
Don't worry. La flashette vous récap l'essentiel.
Avec Angelina.
Ou Franck.
Bonsoir Angelina.
Bonsoir. Vous l'aurez remarqué, et j'en suis fière, je démarre cette chronique avec un tout nouveau jingle fait maison. Une stagiaire intégrée pour qui le bureau reste malgré tout le bout de table de Mathéo. On n'en demande pas trop. Mercredi 22, nos chroniqueurs se sont mis au sport. Si on aurait pu débuter l'émission en terrasse, un verre à la main, accompagné de Nikita et Antoine, c'est bel et bien dans nos studios angevins que nous nous sommes retrouvés. Délicatesse, finesse et champs lexicaux variés, c'est de ces maîtres mots qu'Annabelle, notre invitée d'hier soir, a décrit avec grâce l'odeur de nos locaux.
L'a aimé ou l'a détesté, l'odeur de la chaussette et le tapis de gym et le cheval d'arçon et la corde lisse et les vestiaires, etc.
Un cri du cœur d'Annabelle qui, on l'espère, a convaincu notre animateur de changer de chaussette. Puisqu'on parle mots et langue française, Mathéo s'était visiblement donné pour objectif de réapprendre son alphabet, de la beauté de la syntaxe.
Pour vous, en tant que salarié, je me tourne aussi vers toi. Antoine, comment toi tu l'as vécu ça a été repoussé, quoi.
À la fidèle représentation de la basse-cour.
Cordrine, 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 un mot très difficile.
Il semblerait qu'il ait finalement rebroussé chemin avant d'atteindre la 26e lettre de notre alphabet latin. De son côté, Nolwenn nous a offert sa première interview avec Flavie, Louise et Jérémy, organisateurs du salon de danse J-Dance. Interview bien menée, malgré une certaine déception. Les Santiago Lasso et autres accessoires qu'elle nous avait promis ont manqué au studio. Bref, une émission sportive à l'image de Topette, avec un nombre de protagonistes comparable à celui d'une équipe de foot, dépassant largement les lettres de l'alphabet maîtrisées par nos chroniqueurs, plus de 8.
Merci Angelina. Alors je vous promets que pour celles et ceux qui ont suivi l'émission d'hier et qui ont un peu plus les références, c'est très drôle, c'est bien vu. Voilà, c'est top à la flashette, Toplette. Tu peux m'aider, hein, c'est le nom officiel que t'as trouvé.
Top à la flashette.
Top à la flashette, voilà comment ça s'appelle, la petite flashette de Topette. Topette qui est bientôt sur sa fin, c'est bientôt fini. Il nous reste deux petites minutes avec François et Anne pour reparler des 48 heures de l'agriculture urbaine, même s'il y a des agricultures urbaines. Ça a l'air d'être important dans le discours, François et Anne, donc c'est important de le préciser. Justement, en parlant d'importance, qu'est-ce qui est important de retenir par rapport à tout ça, Anne? Et François, Anne, en partant du micro, les infos pratiques peut-être?
Alors, dans les infos pratiques, donc c'est un festival qui est effectivement gratuit. Vous pouvez retrouver tout le détail de la programmation sur le www.les48h.com et /Angers, vous allez trouver toutes les villes et c'est un site national qui recense toute la programmation. Donc là, vous aurez vraiment tout le détail. Et puis, on a surtout hâte de vous rencontrer, discuter, échanger. Et si vous avez envie de fabriquer des bombes à graines, c'est moi qui m'y collerai.
François, celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est l'agriculture urbaine et là dont la curiosité aurait été titillée, qu'est-ce que tu leur recommanderais, le temps fort qui semble important à suivre sur ces 48 heures?
Alors, je les invite à venir nous voir samedi, puisqu'en fait, la vingtaine d'exposants présents représente un panel assez large des agricultures urbaines, avec du maraîchage périurbain, avec cueillette à la ferme, avec de la culture sur paille, avec du jardinage urbain, avec
de l'aquaponie,
et puis tout un tas d'autres activités, notamment d'animation autour du végétal.
Et pour aller plus loin sur les agricultures urbaines, il y a Mauve, les infos pratiques concernant l'association Anne, et puis aussi la chronique Panorama.
Oui, alors effectivement, on a la chronique à retrouver sur le site de Radio G, où là on dresse un portrait de l'ensemble de nos adhérents. Vous pouvez la retrouver sur la
podcast
partie,
plus. Podcast,
voilà, merci.
Panorama, ça s'appelle.
Ouais, c'est ça. Et puis après, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, à mauve.asso.
Et ben voilà, Anne, en plus de faire les interviews, elle gère bien l'animation. Si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, j'ai l'impression.
Merci pour l'invitation.
Ben merci à toi, Anne, d'être venue. Merci François. En 10 secondes, vraiment.
Juste en 10 secondes, retenez également la date du 19 septembre au 400 coups, puisqu'on aura un ciné-débat avec le film La théorie du boxeur.
Parfait, François aussi est devenu animateur de Topette. Allez, à lundi, bon week-end, Topette.
Topette.
Radio G. 101.5 FM.